Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre mission par le journal, suivi les infos de l'Indonésie. Et après, vous pouvez également écouter notre programme Histoire d'aujourd'hui et la mise au point de la semaine. La rubrique suivante est le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La Commission technique de l'Union de radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique, ou EBU, a élu le nouveau président. Les efforts du gouvernement de développer l'égalité des sexes à travers trois programmes. La réunion ministérielle est la sixième réunion de l'Association des États riverains de l'océan Indien, tenue à Nusa Dua, Bali. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La Commission technique de l'Union radiodiffusion pour l'Asie et Pacifique, ou EBU, a élu Masakazu Iwaki de NHK du Japon en tant que président de la Commission technique pour la période 2016-2018. Ceci est la deuxième période pour lui de diriger la Commission en charge des efforts de développement de la technologie des médias et de radiodiffusion de EBU. Il a déclaré à RRI samedi à Nusa Dua, Bali, qu'il concentrerait ses efforts visant à maintenir la sécurité des fréquences de radiodiffusion qui sont actuellement en sujet de préoccupation. En outre, il a également souligné l'importance de protéger les droits intellectuels des réseaux de diffusion. Le développement technologique actuel nécessite une attention dans le secteur de la sécurité numérique où il faut protéger les fréquences de radiodiffusion et les droits de propriété intellectuelle du contenu de diffusion. Iwaki a déclaré que la protection pouvait être faite par l'établissement d'une collaboration avec des organisations similaires dans le monde.
I know that with our wealth of experience, we can create new opportunities for all ABU.
Si nous voulons continuer à diffuser, la fréquence de diffusion est la source la plus importante pour notre industrie, de sorte que nous collaborons avec des organisations similaires, telles que EBU. Nous collaborons pour protéger la fréquence de radiodiffusion. Si nous utilisons la technologie de la propriété intellectuelle, alors nous avons aussi besoin de la protection de la cybersécurité. Le nouveau numéro est le coût pour le nouvel équipement. La nouvelle question aujourd'hui est le coût d'un nouvel équipement. Il est notre préoccupation dans le domaine de l'ingénierie. Masakazu Iwaki est élu par l'acclamation à l'élection du président du comité technique EBU, la poursuite du précédent mandat qu'il occupait depuis 2014. Il est maintenant le chef de la diffusion de la recherche interface humaine dans le laboratoire de recherche des sciences et technologies de NHK du Japon depuis 2015. En plus de choisir Masakazu Iwaki en tant que président, la Commission technique et bio a également nommé 3 vice-présidents de la Commission technique et bio pour une période de 2 ans. Ils sont Taraka Moholti de MTV Sri Lanka, la Santa Samaranayake de EAP Sri Lanka et Kongbin de RTPRC de la Chine. Le gouvernement de l'Indonésie, par le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection des enfants, construit l'égalité des sexes pour les femmes et les enfants à travers 3 programmes. Les 3 programmes visent à réduire le niveau de violence contre les femmes et les enfants dans le milieu de la communauté. Cela a été dit par le ministre de l'autonomisation des femmes et la protection des enfants de l'Indonésie, Madame Yohana Yambise, à RRI samedi 22 octobre 2016 à Nusa Dua, Bali.
Untuk menurunkan ini ya kita punya 3 program unggulan. Pertama ending.
Pour abaisser le niveau de la violence contre les femmes et les enfants, nous avons 3 excellents programmes. Tout d'abord, réduire la violence contre les femmes et les enfants, mettre fin à la traite des personnes, donc les femmes et la victime, et mettre fin à la barrière économique aux femmes. Les femmes ne jouissent pas encore les économies créatives dans leur famille. C'est la cause de la violence contre les femmes et les enfants. Selon le ministre Johanna, elle va faire la campagne « Les 3 programmes » par une chanson de campagne qui peut être facilement reçue par le public. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici notre programme « La Nouvelle de l'Indonésie ». La première nouvelle vient de Pariaman, Sumatra Ouest. Des milliers de touristes sont venus à voir la soirée de clôture de la fête de Hoya Tabui Pariaman 2016, organisée par le gouvernement de Pariaman, Sumatra Ouest et l'ambassadeur de la République d'Indonésie à la nation iranienne, M. Octavino Alimuddin à Pariaman dimanche a déclaré que la fête culturelle de Tabui était une activité touristique qui était régulièrement effectuée chaque année par le gouvernement local pour soutenir le secteur touristique. L'ambassadeur espère qu'à l'avenir, la mise en œuvre de ce festival culturel Tabui pourrait apporter environ 2000 touristes en provenance de pays Iran. Il a dit que le festival était une grande activité de la région dans le développement du secteur du tourisme de Sumatra Ouest. Le gouverneur de Sumatra Ouest, M. Irwan Prayitno, a déclaré que le gouvernement provincial soutient les efforts de Pariaman dans le développement du secteur touristique. La nouvelle suivante vient de Bogor, Jawa Ouest. La communauté d'activateurs de tourisme à Puncak Bogor, Jawa Ouest, a formé une équipe de chercheurs de déchets comme l'un des efforts de la gestion des déchets dans cette région. Le chef de la communauté d'activateurs de tourisme à Puncak, M. Taufik Maulana, lorsqu'il est rencontré à Puncak, a déclaré rendu que les membres de l'équipe de chercheurs de déchets sont les institutions de tourisme de la région de Puncak. L'équipe cherche des déchets qui sont jetés négligemment par les citoyens et aussi éduquer les visiteurs afin de ne pas jeter des ordures dans la rue. Selon lui, même si le mouvement n'est pas encore massif, il a donné un bon effet, surtout la réduction d'un tas d'ordures sur la route à certaines localisations. Teguh a déclaré Puncak est le point de départ de la rivière Ciliwung, qui est une zone de captage des eaux. L'existence de déchets a un impact négatif qui endommage l'environnement et érosion des sols. Le plus gros déchet vient du public, des parties prenantes dans le tourisme, des restaurants et des étals. Selon Teguh, la communauté d'activateurs du tourisme agit comme un bras du gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de tourisme Sabta Pesona qui effectuent des variétés de façon de préserver l'environnement afin que les zones touristiques soient propres et belles. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie, de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, auditrices, écoutons maintenant l'histoire d'aujourd'hui de l'édition 23 octobre. On va commencer le 23 octobre 1923, proclamation de la République de Turquie. Suite aux accords de Lausanne, la République de Turquie avec sa tête Atatürk est proclamée. Après la décomposition de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres découpa la région et prévit un contrôle militaire des Alliés. Mais l'armée montée par Mustafa Kemal d'Atatürk a fait engager des guerres pour récupérer certains territoires et parvint à faire naître son nouvel État. La Turquie. On continue le 23 octobre 1923, attentat à Beyrouth. À 6h20 du matin, un camion suicide palestinien frappe le quartier général des forces américaines à Beyrouth, tuant 241 soldats américains. Des minutes plus tard, c'est autour de l'immeuble abritant des parachutistes français le Drakkar d'exploser ses bilans, 58 morts. Mandaté par l'ONU, les marines américains et les parachutistes français devaient faire respecter la paix civile au Liban. Devant les difficultés à remplir leur mission, ils quitteront le pays en février 1984. On termine le 23 octobre 1989, accord de Taïf. Les députés libanais signent en Arabie Saoudite l'accord de Taïf qui doit mettre fin à la guerre civile qui fait rage depuis 1975. Les diplomaties syriennes, jordaniennes et américaines supervisent cet accord qui redéfinit en partie la répartition des pouvoirs entre les différentes communautés du Liban. Toutefois, Chité et Druze ne sont pas convaincus, pas plus que Michel Aoun, qui poursuit sa guerre de libération contre la Syrie. Toutefois, les deux communautés minoritaires accepteront cet accord, tandis que Michel Aoun sera battu un an plus tard. Le Liban retrouve la paix, s'il reste occupé par la Syrie et par Israël, tandis que le Hezbollah et l'ALS ne sont pas désarmés. Chers auditeurs et auditrices, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition 23 octobre. À demain.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point de la semaine. Intitulée « Le président a demandé au gouverneur de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la collecte des frais illégaux. » Le président indonésien Joko Widodo a demandé au gouverneur de prendre des mesures concrètes dans la lutte contre la collecte des frais illégaux ou pots de vin qui sont encore vus tous les jours. Entre eux, la collecte des frais illégaux dans la carte d'identité, certificat, permis, collectifs et illégaux sur la route, la porte, les bureaux et aussi les hôpitaux. Cela a été déclaré par le président Joko Widodo lorsqu'il a inauguré une réunion de coordination avec tous les gouverneurs en Indonésie au Palais d'État Jakarta jeudi 20 octobre. Selon le président, la collecte des frais illégaux était l'un des problèmes qui devait être résolu ensemble afin d'assurer le suivi des plaintes de la communauté et accélérer la mise en œuvre des programmes gouvernementaux. Il a dit que la collecte des frais illégaux a rendu difficile la communauté à s'occuper des sources. Cela cause des coûts économiques sont si élevés que la compétitivité de l'économie indonésienne se réduit. Le président a également mis en évidence les problèmes de l'octroi de licences qui ont été plaignés par de nombreuses parties, y compris les investisseurs. Il a dit qu'il avait rencontré les investisseurs qui se sont plaints de l'octroi de licences. Selon lui, l'octroi de licences devait être simplifié et rendu plus simple, ayant du ministère de l'Industrie et le Commerce, la Santé, l'Environnement, le Travail et les autres. Le président a rappelé les gouverneurs, maires et régions sur l'octroi de licences, car la licence est leur autorité. Le gouverneur de Sulawesi du Nord, M. Oli Dondo Kambay, qui a aussi participé à sa réunion le jeudi, a déclaré qu'à présent, le président a actuellement reçu des dizaines de milliers de plaintes, soit la collecte des frais illégaux à petit montant tels que 10 000 rupiah, 50 000 rupiah, 100 000 rupiah, soit la collecte des frais illégaux en haute montant, même de millions de rupiah. Le gouverneur de Java Central, M. Ganjar Pranowo, rassure qu'il est prêt à coopérer avec le gouvernement central pour lutter contre la collecte des frais illégaux. Il a déclaré qu'il a réglé la plupart des problèmes de collecte des frais illégaux dans sa région, entre autres la collecte des frais illégaux au pont bascule camion et wagon et aussi au système de One Stop Administration Service Office. Chers amis, c'était la mise au point de la semaine de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici les événements de la semaine. Les événements du lundi, la Journée mondiale de l'alimentation, l'élan de l'Indonésie de fournir des produits halal. Le 17 octobre était célébré comme la Journée mondiale de l'alimentation qui a été déterminée par l'Organisation des Nations Unies. Par coïncidence, le 18 octobre 2016 est la dernière limite pour le gouvernement à publier des règlements en conformité avec le mandat de la loi numéro 33 l'année 2014 sur la garantie du produit halal. Le directeur exécutif de l'Indonésie Halal Watch, M. Ihsan Abdullah, a déclaré à Jakarta que l'élan de la Journée mondiale de l'alimentation le 17 octobre devait être le moment pour l'Indonésie d'affirmer et engager la nécessité d'assurer la possibilité de la nourriture et des produits qui sont sûrs, sains et halal. Au même jour, le président indonésien Joko Widodo demandait l'infrastructure électricité en Papouasie, achevée en 2019. Le président Joko Widodo a demandé la réalisation de l'infrastructure électrique en Papouasie et Papouasie occidentale devait être terminée en 2019. Cela a été déclaré par le président lors de l'inauguration de 6 infrastructures d'électricité à Sentani, la région de Papouasie lundi, et selon le président, la condition naturelle de l'île de Papouasie était dure, mais il n'était pas de raison pour terminer le projet d'infrastructure rapidement. Les événements du mardi. L'importance du rôle des médias dans l'éducation du changement climatique. L'Assemblée générale de l'Asie-Pacific Broadcasting Union, qui est tenue à Nusa Dua, Bali, du 18 au 26 octobre 2016 a pour thème « Media for the future », soit le média pour l'avenir, qui se consiste en quelques discussions. L'une des discussions était comment de former les professionnels des médias pour informer des problèmes spéciaux tels que le changement climatique d'une manière et un emballage différent. Parce qu'il n'y avait aucun doute, les médias n'avaient pas tout à fait prêt à informer et éduquer le public, notamment en ce qui concerne le changement climatique qui se passait dans le monde aujourd'hui. Comme affirmait Natalia Ilieva, l'assistante présidente du secrétaire général de la Asia Pacific Broadcasting Union à Radio République Indonesia, dans un dialogue spécial à Nusa Dua, Bali, mardi 19 octobre 2016. Selon Natalia, son côté va faire l'entraînement spécial au séminaire pour les journalistes afin de connaître les problèmes liés au changement climatique, y compris les problèmes de sécurité alimentaire et de la sécurité de l'eau qui ont émergé au milieu de la société aujourd'hui. Au même jour, l'Indonésie a l'initiative de mener un dialogue interreligieux et culturel de MIKTA. Le gouvernement indonésien a l'initiative de mener un dialogue interreligieux et culturel entre les pays qui ont rejoint le groupe de MIKTA, tels que le Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie, tenu à Yogyakarta du 18 au 19 octobre 2016. Cette activité était tenue pour la première fois dans le monde. Elle était l'initiative de l'Indonésie. Cela a été déclaré par le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, lors de l'ouverture de ce dialogue mardi à Yogyakarta. Selon le vice-ministre, le but de cette activité serait concentré à l'effort pour surmonter la menace de la sécurité, le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme. Le gouvernement indonésien espérait la coopération qui impliquait toutes les parties de MIKTA pouvait être renforcée, stratégique et inclusive. Les événements du mercredi, le Parlement a approuvé le projet de loi sur l'accord de Paris sur le climat. Le Parlement de la République d'Indonésie a approuvé le projet de loi sur l'accord de Paris, un accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, convenu par les 195 pays participants du sommet des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris en décembre 2015. Le président de la commission 7 du Parlement indonésien, M. Gus Irawan, au Parlement, a déclaré mercredi que toutes les factions étaient d'accord avec la proposition du gouvernement concernant le projet de loi dans la discussion au Conseil de délibération et de la commission 7 du Parlement. Il espérait que le projet de loi pouvait devenir des règles contraignantes pour toutes les parties prenantes pour protéger l'environnement, notamment dans le contexte des changements climatiques. Au même jour, le Parlement de la République d'Indonésie a discuté trois choses avec l'ambassadeur de l'Ukraine. Le vice-président du Parlement, M. Fadrizon, a reçu l'ambassadeur de l'Ukraine à l'Indonésie, Volodymyr Pakil, pour discuter des relations bilatérales, la lutte contre la corruption et la question des relations ukrainiennes avec la Russie. Fadlizon a pris la contre avec Volodymyr Pakil au Parlement Jakarta, cité par Antara, mercredi a déclaré que les deux pays ont discuté d'abord des relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Ukraine. Les deux pays ont un groupe de coopération interparlementaire bilatérale. Deuxièmement, le Parlement indonésien a offert la coopération de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption pour lutter contre la corruption et selon Fadlizon, la troisième discussion était l'Ukraine, espérait l'Indonésie pour négocier la réunion interparlementaire n'était pas tenue en Russie parce que les relations entre les deux pays n'étaient pas bonnes. Les événements du jeudi, La facilité d'obtenir d'emploi était l'un des indicateurs de succès d'un gouvernement. Le gouvernement du président Joko Widodo et vice-président Yusuf Kalla ont conduit l'Indonésie pendant 2 ans en octobre 2016. Mais il y avait encore l'insuffisance dans leur direction pour améliorer l'économie. Le directeur exécutif de l'Institut de l'Indonésie pour le développement de l'économie et des finances, ou INDEF, Madame Eni Srihartati, dans la discussion sur 2 ans de Nawacita de la gouvernance du président Joko Widodo et du vice-président Yusuf Kalla, a déclaré à Jakarta jeudi que l'un des indicateurs de la réussite de l'économie était l'augmentation de la productivité qui avait un impact sur la facilité d'obtenir des emplois pour les gens. INDEF a noté qu'il y avait quelques faiblesses qui doivent être améliorées par le président Joko Widodo, telles que la dépendance indonésienne contre les importations plus élevées. L'industrie nationale a tendance à ralentir et le manque de sécurité du marché intérieur des produits d'importation. Les événements du vendredi, Festival du Lac de Poso, se tiendra de nouveau. Poso organisera un événement touristique, Festival du Charme du Lac Tectonique Poso. Selon les régions de Poso, M. Darmin Agustinus Sigilipu, le festival de cette année serait différent des années précédentes et assisterait par le vice-président Yusuf Kalla le 5 novembre. Darmin Agustinus Sigilipu a déclaré récemment à Jakarta qu'il cible la visite des touristes jusqu'à 50 000 personnes. Ce festival est organisé pour démontrer aux touristes nationaux et étrangers que la région de Poso était maintenant plus sûre après le conflit. Il essayait de montrer la région de Poso aujourd'hui était plus sûre qu'il y avait quelques années. Ceci était prouvé par la mise en œuvre des activités qui ont été également assistées par des milliers de personnes à Poso et les régions avoisinantes. Chers amis, c'était les événements de la semaine de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était notre programme Courrier et Musique. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis dans le monde entier. On se voit encore dans la rubrique Persona Indonesia ou magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager dans la province de Bali et voir la beauté de l'île de Menjangan. Donc, restez toujours avec nous à RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Outre par Onkut, vous pouvez également écouter notre émission par www.voi.co.id. Le nom était pris car cette île inhibée par des troupeaux de cerfs, mais le nombre de cerfs diminue de plus en plus, donc le gouvernement a transformé cet endroit en parc national de l'ouest de Bali. Ce sont l'un des efforts du gouvernement pour préserver le cerf et la biodiversité sur cette île. L'île de Menjangan est située dans le nord du parc national de l'ouest de Bali, plus précisément au village de Kelampok, le quartier de Grokak, la régence de Buleleng, Bali, ou environ 60 km de Lovina. Beaucoup de voyageurs ne connaissent pas l'île de Menjangan. La beauté de l'île de Menjangan est seulement connue par les touristes qui ont un passe-temps de plongée et snorkeling, car il y a plusieurs endroits pour le faire. Selon News Discovery, l'île de Menjangan est inclue dans les meilleurs 10 dans le monde qui a le meilleur sport de plongée et snorkeling. Si vous êtes dans le centre touristique de Kuta pour se rendre à l'île de Menjangan, vous prendrez environ 3 heures, alors que vous êtes au départ de Denpasar, le temps nécessaire est d'environ 4 heures. L'île de Menjangan est connue pour le wall diving. Wall diving est une sorte de plongée en parcourant les vallées sous-marines. Les vallées sous-marines sur l'île de Menjangan ont une profondeur de 20 jusqu'à 60 mètres. L'île de Menjangan a beaucoup de récifs avec des profondeurs ayant de 10 mètres. Les conditions de saison ici sont assez calmes, alors la visibilité que vous pouvez atteindre 50 mètres dans certaines conditions météorologiques. Le fond de marine est également un endroit pour vivre pour les espèces de thon, tortues de mer et aussi les requins. En outre, la partie de l'ouest de Menjangan est aussi le meilleur spot de plongée. Le meilleur moment pour visiter l'île de Menjangan est entre avril jusqu'à novembre. Comme l'île de Menjangan est une île inhabitée, vous devez apporter de la nourriture et des boissons vous-même. Et n'oubliez pas de prendre votre médicament, la crème solaire et le vêtement de rechange. Avant de décider de se plonger ou faire du snorkeling, n'oubliez pas de mettre en place l'équipement qui prend en charge ces activités. Les équipements de plongée sous-marine et le snorkeling peuvent être loués aux stations proches de vous avant de traverser cette île. Il n'y a pas de logement sur l'île de Menjangan. Vous pouvez séjourner aux hôtels autour du port ou à Gilimanuk. Vous pouvez aussi rester à la place Lovina, qui est situé au nord de Bali. Vous prenez environ 2 heures avec le transport public. Après avoir profité de la beauté de l'île de Menjangan, vous devez vous nourrir le repas de spécialité de la région, le poulet betutu. Chers amis, voilà cette édition de Persona Indonesia au magazine culturel avec le sujet L'île de Menjangan à Bali. Merci à tous et à bientôt.
Warna Warni, Indonesia no saikin no jōhō de o tanoshimi kudasai.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur, intitulée Lipi ouvre le deuxième centre de formation de la biodiversité marine du monde. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, a récemment inauguré le centre de formation et de recherche régionale sur biodiversité marine et la santé des écosystèmes au Centre de recherche pour océanographie de LIPI à Ancol, Jakarta du Nord. L'institution, qui est aussi sous la supervision de la Commission océanographique internationale, Commission Pacifique occidentale de l'UNESCO, a été formée dans le but d'accroître la capacité des jeunes chercheurs dans le domaine de la biodiversité et des écosystèmes marins. Le chef de LIPI, M. Iskandar Zulkarnain, a déclaré que l'Indonésie possède un littoral tropical, la deuxième la plus longue dans le monde après le Canada. Selon lui, avec la zone de la mer d'environ 96 000 km² et un littoral de plus de 54 000 km, ainsi que 17 000 îles, l'Indonésie porte un énorme potentiel dans le domaine de maritime. Par conséquent, l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans le domaine maritime est très importante à faire. L'amélioration de la qualité se fait dans la sorte de formation et de collaboration de recherche à l'échelle régionale. Selon Iskandar, l'ouverture de cette institution en Indonésie attire l'intérêt des publics universitaires dans diverses parties du monde, notamment les chercheurs des pays africains. Lors l'agent de sciences et de la terre de LIPI, M. Zainal Arifin a déclaré que la mise en place de cette institution peut être un média pour le transfert de connaissances et de technologies des universitaires ainsi que la responsabilité dans le monde de la science depuis LIPI. Selon lui, LIPI obtient le plein soutien de l'UNESCO aux Commissions océanographiques internationales dans l'établissement du centre de formation et de la recherche régionale sur biodiversité marine et la santé des écosystèmes grâce à la fourniture des fonds de formation pour certains participants régionaux. Le Centre de formation et de la recherche régionale sur biodiversité marine et la santé des écosystèmes de LIPI est la deuxième océanographique dans le monde. Le premier a été formé par la Chine avec un accent sur la dynamique des interactions entre l'océan, l'air, mer et des modèles numériques. Le chef de Centre de recherche océanographique de LIPI est directeur de la COI, Dirham Shah, a déclaré que les chercheurs ont demandé une formation en Indonésie. La première formation de cet institut est la formation de la taxonomie de crustacés tenue du 17 au 29 octobre 2016. La formation réunit 25 participants de divers pays tels que le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, et le Vietnam. Selon Dirmansha, le grand enthousiasme des chercheurs d'autres pays à participer à cette formation a montré que la capacité de l'Indonésie a été reconnue dans le monde entier, notamment dans le domaine de la recherche sur la biodiversité marine, surtout en ce qui concerne la taxonomie de la vie marine. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
のワルナワルニーでまたお会いしましょう。
Couleur du son, programme de musique et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, bienvenue dans la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons pop chantées par un groupe de musique Andra and the Blackbone qui anime l'industrie de la musique indonésienne depuis l'année 2007. Ce groupe, qui se compose de Dedi Stevi, Andra Junedi, a publié le premier album intitulé Andra and the Blackbone. Cet album a gagné le succès. Sans attendre plus longtemps, ce groupe a publié le deuxième album en 2008 intitulé Season 2. Portant la couleur de la musique rock, Andra and the Blackbone possède la caractéristique d'un chanson, la capacité de ses personnages dans le processus de la musique à un rythme de musique qui peut être apprécié par toutes les couches de la société, est une réalisation remarquable. Ils ont également répondu aux paroles des gens qui n'aiment pas la musique rock. À l'international est l'ambition et l'espoir de tous les musiciens de pénétrer le marché de la musique internationale. Bon, chers amis, écoutez maintenant la première chanson du groupe de musique Andra and the Blackbone, intitulé Sempurna ou Parfait.
Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Sempurna. semua hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Semua hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu, sayangku, kau begitu sempurna.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson chantée par groupe de musique Andra and the Blackbone intitulée Parfait. Maintenant, je vais dire bonjour à l'auditeur qui s'appelle Abdelkader Helil, adresse à boîte postale 669. Ouargla, Algérie. Merci pour votre email et merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Passons également le bonjour à Moutirte Mohamed. Il a écrit « Bonjour, je vous écoute depuis Luxembourg et je voudrais juste vous féliciter pour votre adorable station radio qui nous approche de la belle Indonésie. Merci à tous. Ce qui nous ont écrit et envoyé des rapports d'écoute. Chers amis, écoutons maintenant la deuxième chanson intitulée Musna, chantée par Andra and the Blackbone.
Bukan maksud hatiku ajukan dirimu di depan mataku, tapi ku tak bisa lupakan saat dirimu membuat diriku terhina. Sakit hati
Musnahkan cintaku. hatiku tak bisa singkirkan diriku terluka. Sakit hati.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure la deuxième chanson du groupe de musique Andra and the Blackbone. Maintenant, je vais dire bonjour à l'auditeur de l'Algérie, Abdallah Reski. Il habite à El Anasser 34034, cité Ali Babouche. Boîte postale ZIP 34000 Algérie. Il a écrit: j'apprécie beaucoup vos émissions variées que j'écoute régulièrement sur Encore et Internet. Je serais fort heureux de pouvoir visiter votre beau pays, l'Indonésie. Espérons, je vous félicite et je vous encourage pour vos efforts considérables pour rapprocher les peuples du monde entier à travers la politique constructive de votre pays prospère et à travers les émissions de la Voix de l'Indonésie. Au plaisir de vous rencontrer à Jakarta. Au revoir. Bon, merci pour Abdallah Reski en Algérie et merci d'avoir écouté la Voix de l'Indonésie. Et voilà, chers amis, c'était la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Bonne continuation et nous attendons des bonnes nouvelles de vous. Restez toujours en contact avec nous et à la semaine prochaine. Écoutons maintenant les deux dernières chansons de Andra and the Blackbone, intitulées Lagi dan Lagi et Main Hati. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Aku memang salah, aku memang hina. Maafkanlah untuk semua.
lagi.
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes. De 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.